Bonjour et bienvenue dans le podcast de Banana Split Project qui recueille des témoignages de Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Aujourd'hui pour le cinquième épisode, je suis avec Kevin qui est d'ailleurs le premier homme à participer à ce projet. J'ai eu que des femmes pour l'instant. Kevin est français d'origine chinoise et il est à Singapour depuis 5 ans. On s'est rencontrés dans le cadre professionnel. On va parler ensemble de son parcours, de la communauté UM dont il est issu, de sa rencontre avec une Singapourienne et de plein de choses encore. Bonjour Kevin et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Viane, merci de m'inviter sur ce podcast. J'ai adoré le premier épisode, donc vraiment honoré de pouvoir participer en tant que premier homme.
Merci.
Pour mon histoire, donc ça fait 5 ans que je suis à Singapour en fait. Je suis arrivé en 2015 dans le cadre de mon stage de fin d'études pour une société française qui cherchait un profil justement biculturel, qui avait la capacité de travailler à la fois avec des valeurs françaises, mais qui connaissait également la culture asiatique.
Donc toi, Singapour, c'était plus un choix professionnel. Est-ce que tu voulais absolument partir en Asie ou ça s'est présenté comme ça?
Avant ça, j'avais fait pas mal d'échanges en Asie. J'avais fait un échange universitaire à Nankin et à Hong Kong. Et j'avais également fait un stage durant mes études à Shanghai, ce qui fait que j'avais adoré la Chine. Par contre, ce qui me bloquait en Chine, c'est que malheureusement, je ne parlais pas mandarin. En étant chinois, mais qui ne parle pas mandarin en Chine, c'était assez un challenge pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Singapour. On m'a dit que justement c'était super pour avoir un pied en Asie sans pouvoir autant avoir à parler parfaitement mandarin. Donc effectivement c'était un choix conditionnel. Je ne comptais pas forcément rester aussi longtemps. Donc je suis arrivé pour un stage. Ça s'est transformé en mon premier travail.
D'accord. Bah ça arrive à beaucoup de gens d'arriver juste pour quelques mois, quelques années. Et finalement on y reste et on s'enracine à Singapour parce qu'on y est bien aussi. Alors explique-moi un petit peu. Tu m'as dit que tu ne parlais pas mandarin. Est-ce que tu parles un autre dialecte parce que tu es d'origine chinoise? Donc tes parents sont venus de Chine en fait, c'est ça?
C'est ça. Alors, mes parents sont arrivés lorsqu'ils étaient jeunes en France. Mon père est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Et ma mère à l'âge de 16 ans. Et ils se sont rencontrés ensuite en France, puisque mes parents sont arrivés assez jeunes, mais je suis la première génération qui soit née en France.
Que connais-tu de l'histoire de ta famille? Est-ce que tu sais pourquoi ils sont venus? Pourquoi tes grands-parents, en fait, sont venus en France?
Alors, c'était principalement économiquement plutôt que politique, contrairement à d'autres communautés asiatiques. Donc, c'était Wenzhou, pour la petite histoire, est l'une des premières villes à avoir un statut économique spécial avec Shenzhen, avec l'ouverture de la Chine et Deng Xiaoping. Donc dans les années 81, il y a eu une vague d'immigration de Wenzhou qui sont partis en Europe, notamment en France, en Italie, en Espagne. Mais pour l'histoire, je sais que je connais pas grand-chose puisqu'il y a des problèmes de barrière de langage, malheureusement, avec mes ancêtres. Mais ce que je sais, c'est que mon arrière-grand-père était venu en France durant la Première Guerre mondiale, côté de ma mère, qui est ensuite retourné en Chine et depuis, elle a toujours aimé la France. Et ce qui fait que ma mère s'est dit, pourquoi pas, elle est tentée la chance en France, puisqu'en Chine, à l'époque, c'était pas facile. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont partis en France.
Pour avoir une meilleure vie et comme beaucoup de gens de cette région, puisqu'il y a une forte communauté Wen en France, je crois. Enfin, c'est toi qui m'en as parlé d'ailleurs le premier. Tu as grandi au milieu de cette communauté, tu as fréquenté beaucoup d'autres familles issues de la même région.
Ouais, alors en grandissant, nous, on était très solidaires, c'est-à-dire que mes parents avaient un supermarché chinois, donc tous leurs clients étaient des Chinois. Donc c'était dans le 13e arrondissement, c'est un peu différent de la communauté du 13e arrondissement.
Ouais.
Là-bas, ça va être plus Asie du Sud, Cambodgien, Taichu. Les Wen, ils vont plus être dans le 11e, 3e, Belleville, Voltaire et Aubervilliers. Il y a une grande distinction entre ces différents types de communautés asiatiques à Paris.
C'est très précis.
Ouais, c'est très précis, voilà. Beaucoup sont dans le business de l'import-export de textiles. Donc, il y a beaucoup d'usines à Wenzhou et dans la région de Wenzhou où on produit beaucoup de biens textiles, justement, aussi des briquets, des chaussures, des sacs à main, qui sont ensuite revendus en gros en Europe via la plateforme d'Aubervilliers et du 11e arrondissement.
Donc, c'est vraiment une population très commerçante, c'est une communauté qui est connue pour ça, c'est ça?
Exactement. Et je pense que contrairement à d'autres communautés asiatiques en France, vu la relation que c'est avec la Chine, parce que les communautés Taichu sont, de ce que j'ai compris, elles sont parties au Cambodge ou je ne sais quel pays d'Asie du Sud pour ensuite repartir en France. Là, ils sont partis directement de Chine et ils ont gardé des ancêtres là. Moi, j'ai encore des membres de ma famille qui sont en Chine, avec qui on garde contact régulièrement. Mes parents retournent une fois par an en Chine, que ce soit pour voir la famille ou simplement faire du business.
Donc toi, quand tu as grandi, tu étais bien enraciné dans ta communauté.
Oui.
Tu étais à l'école, plutôt une école publique ou une école privée?
Alors, j'avais un peu de deux vies quand j'ai grandi. J'ai grandi dans une école privée catholique. J'étais l'un des rares asiatiques dans mon école. Il y avait quelques autres asiatiques, c'était des japonais, des coréens, pas forcément beaucoup de chinois. Il y a mairie privée. En dehors de ça, cependant, j'avais beaucoup de cours de chinois. auquel beaucoup des gens de ma communauté participaient. Donc, il y avait une association qui avait des cours de chinois chaque mercredi et samedi.
Et malgré ça, tu ne parles pas mandarin, tu disais.
Voilà.
Alors que tu as fait des cours toute ton enfance.
Avec mon père, j'ai toujours parlé français. Je sais pas pourquoi. Et avec ma mère, on parle le dialecte. Le dialecte est très, très distinct comparé à d'autres dialectes asiatiques. Je crois que l'histoire, c'est pour la première en Seconde Guerre mondiale, l'armée chinoise utilisait notre dialecte Wanzhou pour pas que les Japonais puissent comprendre notre langage, parce que c'était tellement différent du mandarin qu'ils n'arrivaient pas à décrypter. Alors que si c'était Chu, alors si c'est Hokkien, il y avait moyen de traduire.
Ah, et tu penses que c'est pour ça que ton grand-père a été employé par l'armée française?
Ah, ou... ça, je sais pas. C'est mon arrière-grand-père.
Ton arrière-grand-père.
Ouais. J'ai connu tous mes arrière-grands-parents, parce que mes parents et mes grands-parents étaient très jeunes. Cependant, il y a un problème de communication. Donc, j'ai jamais vraiment réussi à communiquer avec eux, mais tu sais, dans la culture asiatique, quand tu vois tes ancêtres, mais tu communiques pas forcément avec eux.
Et même en ayant le même langage, c'est pas forcément une barrière de la langue, mais c'est aussi une barrière pudique, on va dire.
Voilà.
Ça ne se fait pas vraiment de poser ces questions-là.
Exactement. Donc, ça parlait souvent de est-ce que tu as mangé?
Voilà. C'est vraiment dommage. Moi, je le regrette parce que du coup, on est coupé, j'ai l'impression, de ses racines et d'une partie de son histoire, mais il ne tient qu'à nous de peut-être solliciter un peu plus.
Du coup, j'ai quelques morceaux d'anecdotes, d'histoires que j'entends par-ci, par-là, de plus en plus par mes parents.
Et quand tu es parti faire ton stage en Chine, est-ce que c'était inconsciemment à la recherche de ses origines ou pas du tout? C'était vraiment une opportunité de stage, de travail?
Là, c'était plus opportunité de travail. J'ai toujours grandi avec des parents qui m'ont dit « la Chine, c'est l'avenir, il y a des choses à faire économiquement, il faut que tu parles chinois, il faut que tu parles là-bas, c'est là-bas le futur ». Ayant fait une école de commerce, effectivement, il faut que j'aille voir ce que ça donne là-bas.
Et quelle a été ta première réaction en arrivant là-bas? Est-ce que tu t'es dit, oui, c'est vrai, c'est ça, c'est l'avenir? Est-ce que ça se voyait?
Ouais. Depuis que je suis tout petit, chaque année, je revenais au moins une fois par an en Chine, rien que pour voir mes grands-parents. Et en plus de ça, je voyageais beaucoup. Mes grands-parents étaient très jeunes, donc j'ai voyagé dans toute la Chine, j'ai eu la chance de faire ça avec mes grands-parents. Donc chaque année, j'allais passer un mois et demi en Chine, et mes grands-parents allaient m'emmener à Hangzhou, dans le Yunnan, dans le Nord. Ce qui fait que je suis très familier avec les lieux touristiques en Chine, mais à chaque fois, j'arrivais pas à comprendre. Sauf qu'on faisait tous les tours, les visites. Mes grands-parents m'expliquaient un petit peu, mais j'ai pas autant été proche du fait de la barrière linguistique. Parce qu'avec mes grands-parents, encore une fois, je parlais pas mandarin, mais je parlais wanzhou, le dialecte. Et la raison pour laquelle j'ai jamais réussi à apprendre, je pense, le mandarin, c'est que moi, j'ai toujours été un élève qui adorait les études et j'adorais ce que j'apprenais à l'école républicaine. Mais dans les écoles de mandarin, j'étais pas très fan de la méthode d'apprentissage. C'est-à-dire, écrire des mots ligne par ligne, répéter encore et encore, c'est quelque chose qui marchait pas pour moi. Et mes parents ont vite compris ça, du coup, ils ont laissé tomber.
Et est-ce qu'une fois adulte, tu as essayé de reprendre des cours, de te remettre au mandarin?
Ouais. Donc, j'ai eu beaucoup d'épisodes où j'ai pris chinois, j'ai abandonné, j'ai pris chinois. Au bout d'un moment, j'ai commencé à apprendre l'anglais beaucoup plus. Enfin, j'ai sorti avec une fille britannique.
D'accord.
Et on a vraiment commencé à parler qu'en anglais et ça me prenait beaucoup de mon temps. Et depuis, bah, je me suis focus sur l'anglais et j'ai complètement abandonné le chinois et professionnellement parlant également, ça fait 5 ans que je travaille principalement en anglais. Aujourd'hui, je bosse pour une boîte australienne et le chinois, je m'en sers absolument pas.
Donc finalement, ce que disaient tes parents, ça va être une opportunité pour toi de parler le chinois, le français, tu vas pouvoir t'en servir.
Ouais.
C'est un atout, c'est ce que j'ai entendu aussi moi en grandissant, c'est un atout. En fait, toi, ça ne t'a pas servi.
Ça aurait pu me servir, mais je trouve que le chinois, je trouve toujours que le chinois, c'est une super langue à apprendre, à la fois en termes d'ouverture d'esprit, de culture, mais aussi économiquement. Mais je trouvais que le temps investi requis pour pouvoir maîtriser cette langue était trop élevé. Moi, j'ai préféré faire autre chose. Et le temps qu'il faut passer pour apprendre le mandarin, faut pas sous-estimer, c'est bien 10 heures par semaine d'écriture, de répétition, de mémorisation, et ça prend beaucoup d'espace dans mon cerveau. Et moi, j'étais dans un champ dans ma vie où je dis, j'ai plein de gens de mon âge, de ma communauté qui font tout ça, je vais faire quelque chose de différent.
Aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu es à Singapour. Mais dis-moi un peu plus les rencontres que tu as faites à Singapour.
Ouais. Alors, quand je suis arrivé, j'étais arrivé en stage et puis en VE. Donc, via le cadre du VE, j'ai rencontré plein d'amis de mon âge qui étaient ici pour 1 an, 2 ans. Donc, c'était super. Et mes 2 premières années, je n'avais que des amis français. Je n'avais jamais mis les pieds dans un poker center durant mes 2 premières années à Singapour.
Donc, français, français ou français banane?
Plutôt français, français, pour être honnête. Après 2 ans, bah, c'est Singapour. Tout le monde est parti. J'ai commencé à être beaucoup plus sélectif sur le choix de mes amis. Et je sais pas, naturellement, aujourd'hui, la plupart de mes amis sont des français banane.
Alors, c'est quoi français banane pour toi? Comment tu définis? Qu'est-ce que ça t'évoque, en fait?
Ouais, pour moi, le terme banane n'est pas péjoratif, mais j'ai beaucoup d'amis pour qui le terme banane est assez péjoratif. Pour eux, sa cotation de vendu, oui. De personne qui n'assume pas ses origines, qui prétend être quelqu'un d'autre qui n'est pas.
C'est d'ailleurs en fait une provocation, hein. C'est vrai que j'appelle le podcast de Banana Split Project, ouais. Parce que je pense qu'il y a souvent un décalage, soit dans la perception qu'ont les autres de nous, soit nous-mêmes par rapport à notre propre identité. Donc c'est un peu provocateur, mais ça permet de refléter.
Pour moi, le terme banane, je pense que c'est une expression efficace pour avoir un aperçu de ce concept, mais je trouve que le concept est tellement vaste, ouais. Que la communauté est tellement grande, qu'il y a tellement de différentes cultures cachées sous ce concept, qu'il faut ne pas s'arrêter là.
Aujourd'hui, tu me dis que tu as beaucoup d'amis bananes, entre guillemets, ouais. Donc on va dire, tu ressens une communauté, tu ressens des valeurs communes.
Indirectement, c'est pas forcément les cultures, les valeurs asiatiques qu'on a en commun, c'est plus les valeurs. Souvent, en fait, avec les Français, on va dire caucasiens, on a des traditions que eux vont beaucoup apprécier, que moi, auxquelles je ne dirais pas forcément autant à cœur. Par exemple, Noël,
oui.
Chez les Français caucasiens, chrétiens surtout, c'est une grande fête familiale, super important. Moi, en grandissant en tant qu'asiatique en France, Noël, bon, bah, c'était une fête où tout le monde était en congé et on faisait des cadeaux, sans plus, quoi. Il n'y avait pas de connotation catholique. Et je pense que c'est le fait d'être exclus de cette culture, ce qui fait qu'on s'est retrouvés ensemble. Donc c'est un peu par exclusion et pas par inclusion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où c'était un peu bah ceux qui ne sont pas rentrés dans le moule, bah ils sont ici et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés.
Moi je l'ai pas vécu parce que mes parents sont chrétiens, ouais. Et ont été élevés dans une tradition chrétienne, donc j'ai pas eu ce rapport avec Noël, mais je peux comprendre. Mmh. Mais du coup ici tu n'as pas cette pression finalement, donc c'est quand même un choix.
Ça fait très naturellement. Donc à Singapour c'est très facile d'entrer de nouvelles personnes. Par contre celles qui vont rester et celles qui ont envie de garder contact vont être très limitées. Je pense aussi avec l'âge,
oui, oui.
Avec le temps, on a de moins en moins envie de faire l'effort d'aller, d'apprendre, de connaître de nouvelles personnes. Et je sais pas, naturellement, j'ai plus d'affinité avec ces gens-là, que ce soit en termes de sujets, de souvenirs d'enfance, ou même de contenu ou de médias qu'on va consommer en ligne. On va pas forcément regarder les mêmes chaînes d'infos, écouter les mêmes musiques.
C'est le centre d'intérêt, finalement, qui, voilà.
À part, et aussi pour la nourriture, je pense. En termes de goût culinaire, je trouvais qu'avec les Français d'origine asiatique, on avait plus de sensibilité pour essayer de nouvelles choses, des nouvelles cuisines asiatiques. C'est la manière principale qu'on a de socialiser à Singapour. Parce que si on doit à chaque fois faire des restaurants non épicés, sans produits un peu compliqués, bah oui, forcément, on va pas inviter les mêmes personnes. Par exemple, une soirée durian, enfin, c'est tout bête, hein, mais
oui.
On va aller à Geylang manger un durian, c'est pas tout le monde qui va nous rendre pour ça.
Toi, tu es allé même plus loin, en fait, dans la rencontre de la population locale, puisque ça fait, je crois, maintenant 3 ans que tu es en couple avec une Singapourienne.
Ouais. Et pour être honnête, avant d'avoir rencontré ma copine, j'avais pas du tout d'amis singapouriens pour la bonne raison qu'on n'avait pas forcément son intérêt. Moi, je suis arrivé à Singapour très jeune. Je suis arrivé à 22-23 ans et à cette époque-là, je devrais faire la fête.
Normal.
Mes semaines se résumaient à faire des after work et aller en boîte le week-end ou sinon à voyager en Asie du Sud. Donc, dès que je voyage, forcément, je prends pas de co. Je suis pas à Singapour. Et ensuite, pour prendre des verres avec des Singapouriens de mon âge, c'était très compliqué, hein, puisque généralement, les Singapouriens de mon âge ne vont pas trop boire d'alcool ou boire autant que nous.
Donc ta copine est une exception.
Voilà, c'est une exception. Et la manière dont je l'ai rencontrée, c'est un peu à part également. C'est pas via Tinder ou quoi que ce soit. C'est vraiment par hasard dans un coworking space où je travaillais. Donc on se croisait tous les jours. On n'avait pas forcément beaucoup de sens d'intérêt au début, au premier abord, parce qu'elle était assez timide. Je savais pas trop comment l'aborder. Au bout de 2-3 mois, j'ai appris à connaître ma copine au-delà de l'aspect je ne bois pas, je ne fais pas la fête.
Et comment est-ce que sa famille à elle t'a perçu ou comment elle t'a perçu? Parce que c'est quand même pas très commun pour des Singapouriens de rencontrer des Français d'origine asiatique.
Ouais, c'était assez surprenant au premier abord, mais au final j'ai été très bien accepté. Ils sont très sympas et le fait que je pense que je sois chinois et que je comprenne bien la culture chinoise, ça a beaucoup aidé. Même si j'ai grandi en France, ma famille est assez traditionnelle. C'est-à-dire qu'à la maison, on est chinois, la plupart des amis sont chinois, on passe beaucoup de vacances en Chine, ce qui fait que c'était beaucoup plus facile pour moi de connecter, de socialiser avec cette famille.
Est-ce que tu penses qu'ils te perçoivent plus comme un Français ou plus comme un Chinois, comme un Français d'origine chinoise? Est-ce que ou ça n'a aucune importance?
Alors, on a un terme en chinois, ça veut dire quoi? Je ne sais, justement, les Chinois qui sont à l'étranger. C'est la diaspora chinoise, en fait. Donc, pour eux, c'est simple. C'est ni français. Ben, c'est pas français. C'est plus chinois que français, dans ce cas-là. Ça va être des Chinois de la diaspora. Ils se posent pas la question et on reste chinois quand même, au final, quoi.
D'accord. Et est-ce qu'elle est curieuse de ta particularité française ou?
Pas spécialement, non. Elle apprend le français pour moi. Elle considère peut-être aller en France un jour. Mais à part ça, c'est pas sans plus, quoi. Mais elle me voit plus comme un chinois qu'un français. Elle le dit elle-même. Elle trouve que je suis plus chinois qu'elle.
D'accord. Et en quoi tu serais plus chinois qu'elle, dans tes goûts
Dans mes goûts culinaires, dans les voyages que j'aime faire, en termes de tradition et de respect des ancêtres. Vu que mes parents ont quitté la Chine un peu plus tard, parce que ces familles, je crois, ils sont partis de la Chine d'avoir 80 ans. Avec le temps, les générations, elles sont beaucoup plus adaptées. Alors que moi, c'est assez récent, ça fait seulement 30 ans. Ce qui fait qu'on a gardé un peu plus de tradition et de coutume chinoise qu'elle.
Pourtant, Singapour, c'est quand même de culture chinoise.
Effectivement. Culture chinoise, mais bon, quand même très mélangée, ouais. Avec la culture britannique, malais, indienne.
D'ailleurs, tu me disais que tu es très curieux de toutes ces autres communautés. C'est vrai qu'on a de la chance à Singapour de côtoyer des gens d'origine diverses. Est-ce que toi, ici, ça t'a fait réfléchir sur le fait d'être immigré, sur ce brassage de culture? Est-ce que c'est pour ça qu'on s'attache à Singapour, finalement?
Oui et non. Moi, je suis arrivé à Singapour, j'avais des questions, mais c'était pas, ça me brûlait pas. C'est-à-dire, j'avais ça en tête. J'ai grandi dans un milieu très clos et pour moi tout était normal d'être en communauté. Je pensais que seuls les Wen vivaient comme cela. Et en fait, je me suis rendu compte en arrivant à Singapour que c'est humain, que tout le monde a envie, il est naturel pour les gens de vouloir être avec les gens comme soi-même, quoi. Et on n'est pas les seuls. Donc, il y a les Chinois, j'ai découvert qu'il y avait les Teochew, qu'il y avait les Hokkien. Dans la communauté indienne, c'est pareil. Il y a plein de sous-cultures indiennes où les gens arrivent à rester entre eux. Je dirais que ça m'a ouvert l'esprit. Ta communauté n'est pas la seule qui soit ainsi.
Alors Kevin, maintenant, ça fait 5 ans que tu es en Asie, est-ce que tu te verrais y vivre? Tu t'y vois à long terme?
Ouais, tout à fait. Alors ce qui est certain, c'est que je ne me vois pas retourner en France pour le moment. Même si j'adore retourner en France une à deux fois par an, voir ma famille, manger de la bonne nourriture française, visiter mes quartiers d'enfance, professionnellement parlant, je ne me reconnais plus, je ne me vois pas travailler en France. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille dans un cadre très international. En anglais, j'ai même du mal à écrire des mails en français. Ma grammaire et ma conjugaison en français, c'est vraiment horrible. Par contre, c'est vrai que, en grandissant, les valeurs familiales étaient très importantes. Que passer du temps avec ta famille, pas forcément faire des choses incroyables, mais juste partager un repas, aller les voir, rendre visite à tes grands-parents. C'est quelque chose, c'est des valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Mais sans, et c'était très inconscient, et récemment, avec le temps, plus je grandis et plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est vraiment important pour moi. Avant, je retournais en France un peu en traînant des pieds, donc voilà, j'ai hâte de voir mes parents, mes grands-parents, ma petite sœur qui a 12 ans, on a 15 ans d'écart, et le fait de ne pas pouvoir la voir grandir, bah, ça me fait un petit pincement au cœur quand même, et j'aimerais pouvoir passer plus de temps avec elle.
Pour toi, quelles sont les plus grandes valeurs que t'ont transmises ta famille chinoise en France?
Je pense qu'il y a le travail. Toujours une famille très très bosseur, mes parents travaillent toujours. Et c'est ce qu'on m'a inculqué. Et même aujourd'hui, je bosse un peu trop. Et donc, ça a été un peu l'extrême pour moi. Parce qu'à une époque, je pense que je travaillais beaucoup trop et je n'appréciais pas assez les temps de repos, tout simplement. C'est-à-dire que le week-end, je me réveillais, je pensais au travail. Donc, c'est quelque chose qui m'ont appris et que je trouve qui est très important. Mais ce que j'ai appris qui est complémentaire à Singapour, c'est aussi d'apprendre à se relaxer et parfois d'être en ligne et tout simplement d'apprécier bon moment avec la famille, les amis, ma copine. Et l'autre valeur sinon que j'ai appris et que j'ai un peu refait à ma sauce également, c'est la famille également. C'est vrai que c'est bien d'être en famille, de passer du temps avec eux, mais je trouve que quand j'étais petit, ils parlaient pas forcément assez des émotions. Donc on parlait beaucoup de nourriture, de choses banales, sans pour aller en profondeur. Encore une fois, ils m'ont inclus des valeurs, mais moi je ne referai pas ma sauce. Et ouais, la famille c'est important, mais c'est aussi important de parler de sujets un peu plus sensibles, d'émotions, choses comme ça.
Je pense que c'est vraiment quelque chose de commun aux familles asiatiques. Je me rends compte que travail, éducation sont des valeurs que j'entends beaucoup quand j'interroge les gens autour de moi et que j'ai moi-même. Et ce manque de communication. Alors, je ne sais pas si c'est de la pudeur, un rapport au passé ou un rapport à ses émotions qui est asiatique. Je ne sais pas si c'est propre à la culture asiatique, mais c'est vrai qu'on se retrouve, nous, notre génération, dans une recherche, dans un manque de connaissances et de connexion avec son passé. Est-ce que le fait d'être en Asie, ça te rapproche de ta famille qui est restée en Chine? Est-ce que tu as des liens avec cette famille qui débranche plus éloignée?
En fait, c'est le côté de ma mère. J'ai encore mes grands-parents là-bas, avec qui je garde contact grâce à WeChat. Donc, c'est un super outil. Mes grands-parents, ils ont 65 ans maintenant. Et une fois par semaine, ils m'envoient des photos d'eux en train de voyager, ils m'envoient des messages vocaux. Mais encore une fois, il y a le barrière de la langage.
Barrière de la langue, pardon.
Je garde contact avec eux, mais le fait que je sois à Singapour ne change pas grand-chose. Oui, en fait, c'est un peu à double tranchant. Le fait qu'on soit en Asie, bah du coup, on prend moins de temps pour aller en Chine parce qu'on est déjà en Asie.
Ouais.
Alors qu'avant, quand j'étais en France, il faut que j'aille au moins une à deux fois par an en Asie. Et si je passe en Asie, c'est en Chine. Maintenant, si je voyage, bah ça va être en France, c'est pas forcément aller en Chine.
On arrive au bout de ton témoignage. Kevin, est-ce que tu arriverais à te définir? Comment est-ce que tu te qualifierais? Est-ce que tu es un Français d'origine asiatique? Est-ce que c'est juste? Est-ce que tu es une banane? Non, j'ai bien compris que ce terme ne te correspond pas. Est-ce que tu es citoyen du monde? Comment tu te définis aujourd'hui?
S'il y avait un terme que je devais choisir, ça serait citoyen du monde. Dans le sens où je pourrais demain partir à New York ou en Australie. Pour moi, ça ne change rien, parce que je sais qu'il suffit de prendre un billet d'avion pour voir ma famille qui sont en France ou en Chine. Ouais, un citoyen du monde. Je ne me pose pas forcément des questions sur qui est ma communauté ou ça. Dans, au final, je pense qu'on est tous des êtres humains avec les mêmes besoins et que oui, la culture, c'est important, mais ça ne devrait pas nous retenir pour qui on veut devenir. Alors, ma question, c'était qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Non, c'est qu'est-ce que je n'arrive pas à faire, parce que en fait, je peux tout faire. J'ai plus de limites. Enfin, bien sûr, plus de limites.
Le super-héros.
Il y a plus de limites pour voyager. Si je veux parler, je sais que si dans 5 ans, je
bouge dans un
pays, je me sens libre. J'ai vraiment plus de limites dans ce sens-là.
D'accord. Et le terme français, pour toi, ça t'évoque quoi? Est-ce que c'est juste un passeport, finalement, maintenant?
Oui, en vrai, c'est juste un passeport. Donc, j'aimerais dire que non, oui, les valeurs républicaines,
non,
quoi que
ce soit.
Je suis très reconnaissant de la culture française, d'avoir grandi en France, et je serai toujours reconnaissant, mais je me sens pas forcément français ou républicain. Moi, sur mes 18 ans, j'ai grandi à Paris, donc très parisien déjà, très multiculturel. Tous mes amis, c'était j'ai une école privée, donc il y avait beaucoup d'Américains, de British, de fils de migrants de différents pays. Ce qui fait que j'ai jamais été très proche, ou d'autres diront mal intégré, mais j'ai toujours une culture très internationale.
Ouais.
Et là, pareil, là, je me sens toujours d'une culture internationale. Pour moi, le passeport français, ça reste un passeport. Je suis né là-bas. Mais il y a tellement de combinaisons possibles dans le monde d'aujourd'hui avec le voyage Internet que pour moi, ça ne veut plus rien dire.
Oui, c'est pas comme ça que tu te définis par rapport à une culture ou une nationalité ou quoi que ce soit. Finalement, comme tu dis, on est finalement la somme des relations qu'on a avec les autres. On est la somme des actions qu'on fait au jour le jour.
Ouais.
Peut-être au-delà du fait d'appartenir à une communauté ou d'appartenir à une culture.
Et le truc pour finir, c'est qu'à Singapour, en regardant un peu l'histoire de différentes familles, de gens que j'ai rencontrés, tout le monde est issu de différents mix de métissage. Et en fait, les questions qu'on se pose aujourd'hui, les gens se posaient même question à 80 ans, mais au final, une fois que tu as des enfants, 3-4 générations, ça s'oublie et on répète la même chose. Je pense que j'ai probablement du sang mélangé, je ne sais quoi, parmi mes ancêtres. Et même si on se pose la question aujourd'hui, en fait, ça, je trouve que voilà, c'est bien de se poser la question, mais pas forcément de se faire un être non plus, parce que au final, c'est pas ce qui importe le plus.
Au final, on est tous des êtres humains, que ce soit à Paris, à Singapour, et finalement, c'est ni la couleur de peau, ni la culture, ni les origines qui font une différence. Je pense que c'est le message de Kevin aujourd'hui. Merci beaucoup, Kevin,
merci
pour ton témoignage. Ce fut un vrai plaisir.
Merci.
Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et suivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram @banana.split.project. Et surtout, abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun épisode. Merci, à bientôt !